Bienvenue. Vous savez, cette impression étrange parfois avec une IA, on pense qu'elle a tout compris et puis elle sort une erreur complètement illogique.
Oui, c'est un peu ça le sujet aujourd'hui. On va regarder de près un article de recherche assez intéressant de Marina Moncoridis et son équipe. Ça s'appelle Potemkin Understanding in Large Language Models.
Compréhension Potemkin?
Exactement. L'idée, c'est que les grands modèles de langage, les fameux LLM, pourraient en fait afficher une sorte de compréhension en façade. Un peu comme les villages Potemkin, quoi, une illusion.
Une façade. Donc, l'article suggère que la façon dont on évalue ces IA, souvent avec nos examens, des tests faits pour nous, les humains, ben, ça pourrait être trompeur.
C'est ça. Notre but, c'est de décortiquer un peu cette idée de compréhension Potemkin. Pourquoi est-ce que ça remet en cause nos méthodes d'évaluation?
D'accord.
Ben, les benchmarks classiques, les SAT, les examens, etc., ça marche bien pour nous parce qu'ils ciblent nos erreurs typiques, des points faibles qu'on connaît, que l'article appelle des keystones, des questions clés, si vous voulez.
Ok, ça révèle notre compréhension profonde ou nos lacunes. Mais alors, pour les LLM, c'est quoi le problème s'ils réussissent ces keystones?
Ah, ben le problème, c'est comment ils peuvent échouer sur le concept général, même en réussissant ces points précis. La compréhension Potemkin, ça apparaît justement là. Le LLM réussit le test, la question clé,
Oui.
mais après, il montre qu'il interprète le concept d'une façon totalement non humaine, une façon dont un humain ne se tromperait jamais. Donc, c'est une réussite de surface qui cache une incompréhension fondamentale et d'une nature différente.
Si un LLM a ce genre de compréhension en trompe-l'œil, nos tests habituels, en fait, ils mesurent pas vraiment sa vraie capacité à saisir le concept.
Précisément, l'illusion peut être parfaite. Il donne un exemple dans l'article qui est très parlant. C'est avec le schéma de rime ABAB.
ABAB, d'accord.
Un modèle comme GPT-4o, un modèle récent et puissant, il peut définir parfaitement ce qu'est un schéma ABAB.
Logique, vu ses capacités.
Et après,
Et après?
quand on lui demande d'écrire un poème qui respecte ce schéma, il échoue.
Ah.
Mais le plus fou, c'est que parfois, le modèle a l'air de réaliser lui-même que ce qu'il a produit ne correspond pas au schéma qu'il venait pourtant de définir correctement.
Attendez. Il définit bien.
Il applique mal.
Et il sait qu'il applique mal.
C'est ça qui est bizarre. C'est pas juste une erreur, c'est incohérent. On voit pas ça chez nous. Exactement. C'est cette incohérence qui est au cœur du problème. Pour creuser ça, les chercheurs n'ont pas utilisé les tests standards. Ils ont créé leur propre benchmark.
Ah oui, ok. Sur quoi?
Sur des techniques littéraires, la théorie des jeux, des biais cognitifs, des domaines variés. L'objectif, c'était vraiment de mesurer cet écart. L'écart entre expliquer un concept et l'appliquer.
Et alors, cet écart, il est grand, qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
Très grand, oui. Les résultats sont assez nets. Pour définir les concepts, les modèles sont brillants, plus de 94% de réussite.
Impressionnant. Ok.
Mais dès qu'il s'agit d'appliquer ces mêmes concepts, classifier, générer du texte avec des contraintes, éditer, là, les performances s'effondrent.
Donc, ils savent dire ce que c'est, mais pas vraiment s'en servir concrètement.
C'est un peu ça, oui. Le taux d'erreur d'application, malgré une définition correcte, ce qu'ils appellent les taux Potemkin, eh bien, ils sont très élevés. Ça tourne autour de 40 à 55% selon la tâche.
Ah oui, quand même.
Et c'est pas juste sur un modèle ou un domaine. Ils disent que c'est ubiquitaire, omniprésent. Ça touche tous les modèles testés, toutes les tâches, tous les domaines. Et essayer d'améliorer en ajoutant plus de questions clés, ça n'a aidé que très peu.
Ça suggère que le problème est vraiment fondamental, pas juste une petite faiblesse.
Tout à fait. Et ils ont une deuxième méthode, automatisée cette fois, qui confirme ça. D'abord, ils testent l'incohérence directe.
Comment ça marche? On demande au modèle de générer un exemple. Puis, dans une autre requête, séparée, on lui demande une réponse, est-ce que cet exemple est correct? Et très souvent, les modèles se contredisent. Ils ne valident pas leur propre production.
Intéressant comme approche pour déceler les failles.
Oui, et il y a une autre procédure automatisée. Le modèle répond à une question, puis il doit générer des questions liées, y répondre, et enfin s'auto-évaluer sur sa première réponse.
D'accord, et là aussi?
Là aussi, quand il y a un désaccord entre la réponse initiale et l'auto-évaluation, ça pointe vers une compréhension Potemkin. Et même cette méthode, qui est prudente, qui ne détecte sûrement qu'une partie des cas, elle trouve des taux élevés, 62% en moyenne.
Bon, bah, ces résultats semblent assez solides et convergents. Cette compréhension Potemkin, elle a l'air bien réelle et répandue. Quelle est l'implication principale qu'on doit retenir de tout ça?
L'implication majeure, c'est qu'on doit vraiment questionner la validité de nos benchmarks standards, ce fait pour les humains, pour évaluer ce que les LLM comprennent vraiment. Réussir un test, ça ne veut pas dire comprendre le concept comme un humain le comprendrait.
Et ça, c'est crucial, j'imagine. Si on se fie à ces tests pour déployer des IA dans des domaines importants.
Exactement. Si on se base sur une façade, les risques sont là. On pourrait surestimer leurs capacités réelles. Donc, en résumé, cette recherche nous dit « attention ». Derrière la performance impressionnante des LLM, il y a souvent des incohérences, des modes d'erreur qui nous sont étrangers. Et nos outils d'évaluation actuels y passent un peu à côté de ça.
C'est ça. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale pour la suite. Si nos tests habituels ne suffisent pas, comment on fait pour évaluer de manière fiable, profonde, ce que ces machines comprennent réellement? Il faut peut-être repenser nos méthodes.
Oui, repenser nos méthodes d'évaluation, les rendre moins centrées sur la cognition humaine, et peut-être même repenser ce que ça veut dire comprendre pour une intelligence artificielle. Vaste question.